Vous écoutez, on lit pour vous.
25 mars, journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Un texte de la rédaction paru sur la page de l'ONU. Une journée placée sous le signe de la mémoire, mais aussi de l'action. À l'époque du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques Caraïbes, des millions d'Africains furent capturés, embarqués de force sur des navires européens et transportés dans des conditions épouvantables vers les Amériques et les îles des Caraïbes, où se perpétuèrent les atrocités. Ces captifs furent réduits en esclavage pour le restant de leurs jours et livrés à la merci de leurs maîtres. Des centaines d'années de traite n'ont pas manqué d'influencer ces sociétés dont le passé est intimement mêlé au présent et le restera sûrement dans les années à venir. C'est précisément ce lien entre passé, présent et futur qui offre de nouvelles perspectives. En se confrontant à cette tragédie vécue, on comprend la manière dont certains mécanismes de nos sociétés contemporaines font écho à ces événements lointains. Le rôle de l'éducation. Comment comprendre les grands défis contemporains que sont la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination sans connaître l'histoire et les processus ayant façonné et légitimé de telles pratiques? Afin de combattre efficacement les inégalités dont sont victimes les descendants d'esclaves et afro-descendants en général, l'étude de l'histoire de l'esclavage se révèle nécessaire, particulièrement auprès des jeunes publics. L'arme la plus puissante de notre arsenal est l'éducation, soulignait le secrétaire général Antonio Guterres dans son message en 2021. En enseignant l'histoire de l'esclavage, nous contribuons à nous prémunir contre les instincts les plus vils de l'humanité. En étudiant les postulats et les croyances qui ont permis à cette pratique de prospérer pendant des siècles, nous mettons au grand jour le racisme de notre époque. En honorant les victimes de l'esclavage, nous redonnons un peu de dignité à celles et ceux qui en ont été si impitoyablement dépouillés. Les Nations unies s'efforcent de mettre en lumière ces histoires par le biais du programme d'action éducative sur la traite transatlantique des esclaves et l'esclavage, géré par le Département de la communication mondiale, et du projet « Les routes des personnes mises en esclavage », géré par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. L'adoption de cette journée. En 2006, l'Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 61/19, a reconnu que la traite des esclaves et l'esclavage sont à compter parmi les plus graves violations des droits de l'homme dans l'histoire de l'humanité, notamment de par leur ampleur et leur durée, proclamant ainsi le 25 mars 2007, journée internationale de célébration du bicentenaire de l'abolition de la traite transatlantique des esclaves. L'année suivante, par sa résolution 62/122, elle a désigné le 25 mars comme journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, à partir de 2008. Pourquoi le 25 mars? La loi sur l'abolition de la traite des esclaves, Abolition of the Slave Trade Act, a été adoptée au Royaume-Uni le 25 mars 1807. Cependant, si cette loi a aboli la traite transatlantique des Africains asservis, elle n'a pas supprimé l'esclavage, qui s'est poursuivi pendant des décennies. L'abolition a fait suite à des actes de résistance puissants et soutenus de la part des Africains réduits en esclavage, notamment la Révolution haïtienne qui a conduit à la création, en 1804, de la République d'Haïti, la première nation à devenir indépendante grâce à la lutte de femmes et d'hommes réduits en esclavage. C'était 25 mars. Journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Un texte de la rédaction paru sur la page de l'ONU.
Des organismes de prévention des surdoses au pied du mur. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 18 février 2025 dans Le Devoir. 4 organismes spécialisés dans la prévention des surdoses se préparent à annuler des activités et à mettre du personnel à la porte. Après 1 mois de la fin de l'année financière, ils n'ont toujours pas reçu leur subvention annuelle du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. Cette situation met en péril la continuité de nos services essentiels en matière de prévention des surdoses, écrit le groupe de recherche et d'intervention psychosociale, GRIP, dans une lettre transmise au ministre de la Santé Christian Dubé le 7 février 2025. Le GRIP s'installe dans les festivals durant la haute saison avec une unité mobile qui permet aux consommateurs de drogue de vérifier le contenu des substances. Un service compromis par l'attente en vain d'une subvention de 450 000 $. 6 de ses employés risquent de perdre leur poste cet été. Au moins 3 autres organismes de prévention des surdoses sont dans la même situation. L'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, AQCID, l'Association des intervenants en dépendance du Québec, AIDQ, ainsi que l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, AQP-SUD. Québec solidaire a interpellé à son tour le ministre Dubé par écrit pour le presser d'agir. « Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas nous permettre de telles pertes de services. Une action immédiate de votre part est nécessaire », écrit le député de QS Guillaume Cliche-Rivard dans une lettre transmise depuis au Devoir. Les organismes en question vont sous peu se retrouver en situation de bris de service en raison de retards répétés dans la confirmation et le versement de leur financement de la part de votre ministère, déplore-t-il. Interdit de dépenser avant l'arrivée des subventions. Selon la directrice générale de l'Association des intervenants en dépendance du Québec, AIDQ, les subventions arrivaient déjà tardivement les années précédentes, soit à la fin de l'été ou à l'automne. Cette année, les fonds ne sont jamais arrivés. Nous sommes dans l'insécurité la plus complète, résume Sandhya Vladlamudi. À l'AIDQ, le budget manquant est de 1,6 million de dollars et jusqu'à 16 postes pourraient être abolis dans les prochains jours. L'organisme offre différentes formations sur les surdoses aux intervenants, mais aussi aux proches des consommateurs. Il travaille aussi à la réinsertion professionnelle d'ex-consommateurs. Pour poursuivre ses activités ces derniers mois, l'AIDQ a puisé dans des fonds qu'il avait accumulés dans le passé en tablant sur le fait qu'ils seraient remboursés par le gouvernement plus tard. Or, dans une lettre envoyée au ministre de la Santé, Mme Vladlamudi dit avoir été informée qu'à compter du 1er avril 2025, il ne leur serait plus possible de dépenser tant que les subventions ne seraient pas confirmées par écrit. Une pratique insoutenable, plaide-t-elle, considérant que ces lettres de confirmation nous sont historiquement acheminées entre le mois d'août et le mois de décembre. Cela nous force à arrêter toute activité pendant plusieurs mois et à mettre à pied le personnel qui y est associé. Il faudra réembaucher le personnel et démarrer les activités. Il est clair que c'est un cycle impossible à tenir et que cette façon de faire sonne la fin de ces activités. L'AIDQ roule sur du financement par projet et n'a pas de budget de fonctionnement, précise-t-elle. Financement par projet. L'AIDQ n'offre pas de service direct à la population, mais son rôle n'en est pas moins essentiel dans l'écosystème, souligne-t-elle aussi. La nature des substances consommées change constamment, illustre-t-elle en exemple. Si les intervenants ne sont pas au fait de cette évolution-là, ne connaissent pas les meilleures pratiques pour chacune des substances, on risque d'offrir de mauvaises pistes aux usagers que ça finisse en surdose et potentiellement en surdose mortelle. À l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, AQCID, 2 postes sont en jeu pour un montant de 275 000 $. l'organisme basé à Trois-Rivières fait notamment de la prévention dans les milieux scolaires. À l'AQPSUD, 670 000 $ manquent, ce qui compromet la moitié des salaires de 10 personnes. Cet organisme distribue de la naloxone et des guides d'information dans les milieux à risque et organise des groupes de discussion entre usagers. C'était « Des organismes de prévention des surdoses au pied du mur », un texte d'Isabelle Porter, paru le 18 février 2025 dans Le Devoir.
Esclavage, une mémoire à vif. Un texte de Myriam Cotillas, paru dans l'édition juillet-septembre 2024 du Courrier de l'UNESCO. Longtemps réduite au silence, la mémoire de la traite des esclaves africains a commencé à émerger au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si elle bénéficie aujourd'hui d'une reconnaissance symbolique à travers des lois mémorielles et des commémorations nationales ou internationales, ses effets continuent à se faire vivement sentir. En témoignent les manifestations de discrimination et de racisme qui affectent aujourd'hui encore les afro-descendants. Briser le silence. Il y a 30 ans, en 1994, c'est l'objectif principal que se fixait le programme « La route de l'esclave » de l'UNESCO. Aujourd'hui, les routes des personnes mises en esclavage, pour faire émerger la mémoire de cette tragédie humaine qui a provoqué la déportation, depuis l'Afrique vers les Amériques, de 12,5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, entre le 16e et le milieu du 19e siècle. Sur les côtes de l'Afrique orientale et l'océan Indien, elle a été évaluée à plus d'un million d'hommes et de femmes. À cette mesure terrible, établie sur le dépouillement à un niveau international des archives, s'ajoutent les quelque 7 millions de captifs morts sur les routes internes de la traite en Afrique. Originaire d'Afrique de l'Ouest, dans une zone comprise entre la Sénégambie et l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, ils sont déportés principalement vers le Brésil, 40% des captifs de traite, vers les îles des Caraïbes, 60%, et plus marginalement vers les États-Unis. Ce système d'exploitation humaine par la violence et la domination, l'esclavage, constitue la première économie monde. S'appuyant sur la déportation d'Africains et d'Africaines, elle permet la production de denrées, sucre, café, indigo et coton, à destination de l'Europe, et crée dans chaque société coloniale une hiérarchie sociale ordonnant couleur et statut civil pour donner des définitions raciales aux populations. Chaque personne y est placée en fonction de critères où le facteur racial, plus ou moins blanc, prime sur le facteur social, plus ou moins riche. Le blanc libre propriétaire d'esclaves y est mis en position de supériorité par rapport au noir esclave placé au bas de l'échelle, engendrant une violence structurelle et symbolique qui s'est répercutée de génération en génération. Tragédie silencieuse. Mais cette tragédie a pendant longtemps été tue au niveau des États. Le silence a en effet largement prévalu dans les constructions nationales. En Europe comme en Afrique, dans les Caraïbes comme aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Asie comme dans les pays de la péninsule arabe. Or, l'esclavage a occupé une place importante dans l'histoire, notamment de l'Europe et des États-Unis. Il a construit leurs richesses, façonné leurs idéologies et influencé leurs principes philosophiques. Pourtant, cette importance n'a pas été reconnue pleinement, non plus que les héritages produits par l'histoire de l'esclavage. Mais peut-on enfouir dans le silence les effets du préjugé racial, du racisme et des discriminations endurées par les personnes portant l'histoire de l'esclavage? Si cette politique du silence a perduré pendant des siècles, la reconnaissance de la mémoire de l'esclavage, définie comme les effets du passé dans le présent, a progressivement émergé. Cela tient notamment au changement d'appréciation des rapports mondiaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'une part, les intellectuels issus des colonies des Caraïbes comme Aimé Césaire, Martinique, France, ou d'Afrique comme Alioune Diop, Sénégal, ont commencé à dénoncer l'eurocentrisme et les contradictions d'une Europe construite sur la notion de liberté, alors que perduraient l'esclavage et l'oppression coloniale, jusqu'aux indépendances africaines. D'autre part, cet ébranlement des structures de pensée, croisé avec la monstruosité de la Shoah, provoque une attention aux expériences vécues par les sujets historiques. Plutôt que s'attacher à des discours historiques globalisants, l'attention aux témoins de l'histoire se développe. Il existe, certes, peu de témoins directs de l'esclavage dans les Caraïbes à la fin du XXe siècle, mais ces héritages demeurent un peu partout dans le monde. Au nom des principes d'égalité universelle, la mémoire de l'esclavage s'est ainsi imposée dans l'espace public. Il s'agissait de prendre en compte les éléments historiques qui expliquent le maintien de relations et de positions sociales inégalitaires dans les sociétés contemporaines. Telle est la feuille de route de la mémoire de l'esclavage. Elle s'établit sous la pression d'associations citoyennes et de politiques gouvernementales initiées par des événements politiques. La contestation des commémorations de la découverte des Amériques au Brésil et dans le continent sud-américain ou la réaction aux assassinats de personnes afro-américaines aux États-Unis sont emblématiques de ce mouvement. Excuses et réparations. La mémoire de l'esclavage a ainsi justifié l'établissement de lois dites mémorielles, comme celles adoptées en France en 2001 ou au Sénégal en 2010, font de l'esclavage un crime contre l'humanité. Ici, en 2001, la Conférence mondiale contre le racisme de Durban, Afrique du Sud, n'avait pas réussi à obtenir un consensus des États en faveur d'excuses. Plusieurs gouvernements ont évolué sur la question. En 2007, le Royaume-Uni a présenté des excuses pour son rôle dans la traite, suivi par le Danemark en 2017, les Pays-Bas en 2022 et le Portugal en 2023 pour leur rôle dans l'esclavage. L'Europe, de son côté, s'est excusée pour les souffrances infligées aux millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans la traite transatlantique. Dans le changement de rapport de force qui s'opère depuis les années 2000, des dates commémorant la mémoire de l'esclavage ont été instituées. Au niveau international, le 25 mars est ainsi devenu la Journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique, instaurée par les Nations unies, tandis que le 23 août est la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition de l'UNESCO, en référence au soulèvement des esclaves de Saint-Domingue en 1791. Ce mouvement a aussi connu de nombreuses traductions à l'échelle nationale, parmi lesquels on peut citer la Journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, instaurée le 10 mai en France. Au Brésil, deux dates sont retenues, celle du 13 mai, jour d'une abolition, peu effective, de l'esclavage par la princesse Isabelle, et le 20 novembre, Journée nationale de la conscience noire, qui correspond à l'anniversaire de la mort de Zumbi dos Palmares, leader du plus grand village marron au Brésil. Les Pays-Bas ont institué chaque 1er juillet le Kitikoti, fer brisé en surinamien, comme commémoration de la fin de l'esclavage au Suriname, ancienne Guyane hollandaise, et dans les Antilles néerlandaises. À la Jamaïque, comme à Trinidad et Tobago et dans l'ensemble des anciennes colonies anglaises, l'Emancipation Day, le 1er août, célèbre l'abolition de l'esclavage, mais aussi l'indépendance de ces pays. L'île Maurice célèbre l'abolition le 1er février à la Pointe Canon. Vous écoutez « Esclavage, une mémoire à vif », un texte de Myriam Cotillas paru dans l'édition juillet-septembre 2024 du Courrier de l'UNESCO. Reconnaissance politique. L'ensemble de ces événements officiels constitue une reconnaissance politique, mais il est cependant difficile d'en mesurer les effets sociaux. Moins qu'une prise en compte des souvenirs portés par les héritiers de cette histoire, la commémoration exprime l'usage politique qui est fait du passé. Au cours du XXe siècle, la déportation de l'Afrique vers les Amériques, la mise en esclavage, la circulation atlantique des populations noires ont été constituées en expériences créatrices au sein de la diaspora noire. La mémoire de l'esclavage a été mise en discours, en images et en patrimoine. Les inscriptions au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO du chant Maloya réunionnais ou de la charte du Manden, Mali, l'une des plus anciennes constitutions au monde, en témoignent, entre autres. Les institutions muséales ont également apporté leur contribution à ce processus. Au Ghana, les musées de Cape Coast et d'Elmina, ancien fort négrier, évoquent la question de la traite. Au Sénégal, la maison des esclaves de Gorée s'est imposée comme lieu de pèlerinage et symbole international de la conscience des atrocités subies par les Africains lors de la traite européenne, tandis que le musée des civilisations noires à Dakar porte un discours plus global sur l'Afrique. Le message adressé par tous ces lieux d'Afrique est résolument tourné vers l'extérieur, et notamment vers les diasporas. Le National Museum of African American History and Culture, à Washington, D.C., États-Unis, au contraire, tend à la reconnaissance de l'importance des Afro-Américains dans la construction de la nation américaine. Il s'agit de réécrire l'histoire du pays en valorisant le rapport au travers de l'esclavage. En Europe, le Musée international de l'esclavage de Liverpool, Royaume-Uni, a été le premier sur le sujet à ouvrir. Demande de justice. Cependant, comme l'ont souligné certaines associations de personnes porteuses de la mémoire de l'esclavage, les principaux mémoriaux ont été organisés autour de l'abolition de l'esclavage, à l'image de l'Arche du Retour à New York, ou encore du Mémorial de l'Abolition à Nantes, France, ou le Monument national de l'esclavage dans l'Oosterpark d'Amsterdam. Les souffrances et l'injustice engendrées par l'histoire de l'esclavage ne sont souvent pas prises en compte. Le Musée intercontinental de l'esclavage de Port-Louis à l'île Maurice, ouvert en 2023, cherche, au contraire, à présenter des destins d'esclavisés. Et c'est bien là le problème. Les politiques publiques sous des formes symboliques, législatives, éducatives, aident mais ne résolvent pas les problèmes de racisme et de discrimination. Elles ne répondent pas aux demandes de justice et d'égalité et fondent au contraire des demandes de réparation car les questions sur l'effectivité de la sortie de l'esclavage continuent à se poser de façon aiguë. En septembre 2013, sous l'égide de la CARICOM, communauté caribéenne, les États de la Caraïbe ont lancé une campagne visant le Danemark, l'Espagne, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. Ils les ont assignés en demandant réparation des préjudices causés par l'esclavage et la colonisation en y associant Haïti. Aux États-Unis, cette revendication a ressurgi de façon radicale au cours des affrontements raciaux de Ferguson de 2014-2015 et de Charlottesville en 2017, réactivant le mouvement Black Lives Matter, initié en 2012. La justice, dans le sens éthique et judiciaire, et l'égalité de traitement qui forment les principes des revendications ont été mises en perspective avec une demande globale de réparation. Les réponses ont été diverses. Aux Pays-Bas, le gouvernement a décidé d'abonder un fonds de 200 millions d'euros pour traiter les effets contemporains de l'esclavage. Aux États-Unis, des structures privées comme la Chase Manhattan Bank ou les universités de Harvard, Columbia et Howard, entre autres, ont choisi de financer des bourses d'études spécifiques pour les afro-descendants. En 2020, l'Union européenne a demandé l'adoption de plans nationaux pour prendre en compte le passé colonial et combattre le racisme structurel. Modifier l'inscription de l'histoire dans les espaces publics est aussi un enjeu de réparation. Le changement des noms de rues portant ceux de négriers comme le déboulonnage des statues représentant des esclavagistes sont des moyens de modifier la façon d'écrire l'histoire. Les réparations, dans toute la polysémie du terme, permettent de rétablir la justice pour un monde plus égalitaire. C'était « Esclavage ». Une mémoire à vif, un texte de Myriam Cotillas paru dans l'édition juillet-septembre 2024 du Courrier de l'UNESCO.
Mettez-vous au vert en passant par le blanc. Un texte de Frédéric Simoneau paru dans le Guide annuel 2024. Au Québec, la grande majorité des toits plats résidentiels sont encore protégés par des membranes multicouches de feutre et d'asphalte, généralement recouvertes de gravier. Heureusement pour l'environnement, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à opter pour des toitures considérées comme éco-responsables, en particulier les toits blancs, préconisés par les municipalités pour atténuer les îlots de chaleur. Du fait de son albédo élevé, pouvoir réfléchissant d'une surface, le toit blanc n'absorbe qu'environ 30 % des rayons lumineux et ne surchauffe pas. Par conséquent, sa durée de vie est plus longue que celle d'un produit foncé similaire, les logements sont plus frais l'été et la facture énergétique liée à la climatisation s'en trouve réduite d'autant. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Membrane à monoplis de thermoplastique polyoléphine, TPO, qui affiche l'un des meilleurs rapports durabilité-prix de leur catégorie, éco-énergétique, demandant peu d'entretien et d'une durée de vie pouvant dépasser les 40 ans. Membrane et PDM constitués de caoutchouc synthétique, éthylène propylène diène, le matériau de recouvrement le plus utilisé sur le marché nord-américain, d'une longévité de plus de 50 ans. Membrane élastomère, plus standard, ou encore le traditionnel asphalte recouvert d'une couche de gravier blanc, là où la réglementation municipale permet encore cette solution moins coûteuse. Un conseil d'expert. Faites vérifier la solidité de la structure avant de faire installer un toit blanc, prévient Samuel Skrer, président des constructions toitures A+. En effet, pour toutes les raisons précédemment citées, la neige fondra plus lentement sur un toit blanc. Si la structure a tendance à s'affaisser et semble ne pas pouvoir supporter un poids excédentaire, il faudra sans doute faire déneiger régulièrement le toit pour éviter les accumulations dommageables. Un toit blanc coûte de 25 à 30% plus cher qu'un toit traditionnel, selon la solution choisie, mais tout compte fait, le premier est plus avantageux. Éco-responsabilité et économie sont aujourd'hui compatibles. C'était « Mettez-vous au vert en passant par le blanc », un texte de Frédéric Simoneau, paru dans le Guide annuel 2024.